et appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient comme tous les jours, RFI vous donne la parole et nous sommes vendredi, vous connaissez le principe, c'est la libre antenne. Vous nous appelez, où que vous soyez, en France, à l'étranger, venez commenter l'actualité de votre choix en direct sur l'antenne d'RFI. Vous revenez évidemment sur les sujets qui ont fait la une de la presse internationale, mais aussi sur des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans cette émission, ou tout simplement sur l'antenne d'RFI. Vous êtes à l'étranger, eh bien parlez-nous de l'actualité dans votre pays, dites-nous quels sont les sujets qui font polémique et qui suscitent le débat dans votre pays. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous continuez à débattre entre vous sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. J'en profite pour vous rappeler que nous avons encore un courrier électronique, une adresse, un courriel, et oui, ça existe encore, donc n'hésitez pas, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter via les réseaux sociaux, mais l'adresse appelaupluriel.actu@rfi.fr fonctionne toujours. Et surtout, n'oubliez pas de nous indiquer un numéro afin que nous puissions vous rappeler, que vous puissiez évidemment réagir en direct sur l'antenne d'RFI. Mais d'abord, comme tous les jours, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Plusieurs questions après la visite polémique du Premier ministre israélien cette semaine à Washington. Bonjour Maki.
Oui, bonjour Juan et bonjour à votre correspondant à côté.
Mais notre correspondante qui est en ligne effectivement de Jérusalem, on va appeler dans un instant Muriel Paradon qui répondra à vos questions. Maki, on vous écoute.
C'est vrai Juan et c'est comme je le disais au standard, j'aurai des questions à poser à votre correspondante, toutes relatives à cette visite controversée hein, du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Washington, pour une mission je crois de 3 jours. Où il avait prévu de faire 2 discours, l'un devant le lobby israélien, d'où la conférence annuelle de l'AIPAC, et l'autre face aux 2 chambres du Congrès à propos du nucléaire iranien. Aussi faut-il le souligner, hein, cette visite est dénoncée par la Maison-Blanche. Alors, la question que j'aimerais poser à votre correspondante, premièrement, c'est comment qualifier cette visite ? Est-ce une simple manœuvre électorale ou alors une vraie inquiétude face au nucléaire iranien ?
Ouais, c'est vrai que le Premier ministre israélien n'a pas mâché ses mots, hein, puisqu'il s'est livré devant le Congrès américain à une attaque en règle sur la façon dont le président Obama gère le dossier du nucléaire iranien. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Merci d'être en direct de Jérusalem. Vous êtes la correspondante permanente de RFI. Maki le disait, cette visite a fâché la Maison Blanche. C'est vrai que le président Obama a été tenu à l'écart de l'organisation du voyage du Premier ministre israélien à Washington.
Oui, alors bon, effectivement, Obama n'était pas très content. Et puis Netanyahou s'est livré à un exercice de style assez réussi finalement sur la forme, dénonçant un possible accord entre les puissances occidentales et l'Iran. Mais finalement, rien de nouveau dans ce discours. Alors, pour répondre précisément à la question de Maki, oui, il y a une inquiétude face au nucléaire iranien ici en Israël, qui est largement partagée. Et Benjamin Netanyahou en a fait vraiment une question existentielle. C'est son cheval de bataille depuis 10 ans. Il croit vraiment qu'il est en mission pour sauver son peuple des griffes du diable iranien. Néanmoins, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser que son discours au Congrès américain 15 jours avant les élections générales en Israël est une motivation purement politique. Sinon, Netanyahou aurait pu repousser son discours après les élections du 17 mars. D'ailleurs, les détracteurs de Netanyahou l'accusent d'avoir axé toute sa campagne ce dernier mois sur ce discours, ce qui a permis à Netanyahou d'éviter de parler d'autres sujets. Sujet qui fâche, ses dépenses somptuaires aux frais de l'État et son mauvais bilan économique et social.
Voilà, Netanyahou qui est donc allé à Washington devant le Congrès, faire pression d'une certaine façon pour essayer de dissuader le groupe 5+1 qui négocie en ce moment avec Téhéran de parvenir donc à un accord sur le nucléaire iranien d'ici la fin du mois de mars. Maki, vous avez une autre question ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, puisque les relations ont toujours été, disons, tendues entre Barack Obama et Benjamin Netanyahu, disons, quel impact cette visite de ce dernier pourrait avoir sur les relations entre les USA et l'Israël ?
C'est vrai que les relations n'ont jamais été cordiales entre le président américain et le premier ministre israélien, Muriel.
Oui, ça fait des années que les relations sont extrêmement froides entre les deux hommes. Alors la vraie question est de savoir si effectivement ça peut entamer les relations entre les deux pays, Israël et les États-Unis. Ça, c'est une vraie source d'inquiétude en Israël, hein. Le discours de Netanyahou dans le dos de l'administration d'Obama serait mauvais pour les relations entre les deux pays. On le lit partout dans les journaux et les gens ont peur que ça impacte ces relations. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont les principaux alliés d'Israël, qui leur fournissent une aide très importante financièrement, surtout au niveau militaire. Susan Rice, la conseillère à la sécurité américaine, a rappelé qu'Israël avait bénéficié depuis 2009, depuis que Obama est en poste, de plus de 20 milliards de dollars d'aide militaire. Et effectivement, il y a une crainte ici que cette aide soit remise en question, au moins en partie, ou alors que les États-Unis n'apportent plus leur soutien lors des votes de résolution de l'ONU à Israël, quand Israël, par exemple, est condamné sur la colonisation. Pour l'instant, rien ne change. Les États-Unis continuent d'apporter et de réaffirmer leur soutien à Israël. Et puis, on est à 10 jours des élections générales en Israël. Obama doit attendre avec impatience de savoir si Netanyahou restera au pouvoir ou si un autre Premier ministre prendra la tête d'Israël.
Ouais, en tout cas, aux États-Unis, Benjamin Netanyahou a réussi à briser d'une certaine façon le consensus démocrate-républicain lorsqu'il s'agit d'Israël, puisque les démocrates sont vent debout après le discours de Benjamin Netanyahou cette semaine devant le Congrès. On rappelle qu'il est allé sur place à l'invitation des Républicains qui sont majoritaires à la Chambre des représentants comme au Sénat. Je vais me faire le porte-parole d'Eli. On a de gros problèmes ce matin au standard, je préfère vous prévenir dès maintenant. Eli qui est à Lomé, il nous dit qui des deux chefs d'État, Barack Obama, Benjamin Netanyahou, a le plus à perdre dans ce bras de fer, Muriel Paradon?
Alors, moi, je peux vous parler de Netanyahou. Est-ce qu'il a à perdre ou est-ce qu'il a à gagner, finalement, sur ce discours au Congrès hein, parce qu'en fait, il a misé un peu toute sa campagne électorale là-dessus, sur ce discours. On n'a parlé que de ça ici. Et finalement, Netanyahou a axé cette campagne sur les questions de sécurité, sur l'Iran. Tout le monde a d'ailleurs salué son discours sur la forme, même l'opposition en Israël. Discours extrêmement suivi, diffusé partout à la télévision. Qu'est-ce que ça a donné, finalement, au final ? 2 points de plus dans les sondages, 2 sièges de plus en projection au Parlement pour son parti, le Likoud. Mais finalement, ce n'est pas une percée fondamentale. Le Likoud reste au coude à coude avec le centre-gauche. Il faudra voir si les électeurs, le 17 mars, sont davantage effectivement préoccupés par ces questions sécuritaires. Et dans ce cas-là, Netanyahou aura toutes les chances d'être réélu. Ou si ces électeurs sont davantage préoccupés par des questions internes, économiques, sociales. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt la gauche. Résultat donc le 17 mars.
Oui, mais sur la scène internationale, est-ce qu'Israël, et notamment Benjamin Netanyahou, n'a pas le plus à perdre que Barack Obama? Puisqu'en critiquant la politique menée par Barack Obama sur le dossier du nucléaire, Benjamin Netanyahou critique également la France, la Grande-Bretagne, la Chine, l'Allemagne, qui font partie du groupe 5+1 et qui négocient en ce moment avec Téhéran.
Effectivement, il y a un risque de s'isoler encore plus. Hein. Israël, qui a été très critiqué ces derniers mois sur la colonisation, sur son attitude face aux Palestiniens, risque de s'isoler un peu plus. Mais au final, finalement, on ne voit pas très bien ce que ça pourrait changer, en tout cas sur ces négociations en cours. En Suisse, hein, sur la négociation sur l'Iran. Donc, la crainte effectivement en Israël, c'est de dire est-ce qu'Israël va non seulement pas se couper un peu de son allié américain, mais de s'isoler un peu plus sur la scène internationale.
À suivre donc. Autre question sur ce dossier. Pascal nous rejoint, il est avec nous au téléphone. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous nous appelez de Kampala. On vous écoute avec Muriel Paradon, notre correspondante à Jérusalem.
Oui, Juan Gomez, j'ai lu sur le site de RFI que le premier ministre israélien a été contredit par les services de renseignement, le Mossad, sur le nucléaire iranien. Cela a suscité chez moi un certain nombre de questions. Mm-hmm. Comment expliquer ce fossé entre le Mossad et Benjamin Netanyahou sur le nucléaire iranien?
Ah, bonne question. Muriel Paradon, on a tous encore en mémoire ces images de Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU en 2012, affirmant que l'Iran avait atteint un seuil dangereux d'enrichissement de son uranium. Et d'ailleurs, pour illustrer ses propos, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se souvient, Benjamin Netanyahou avait sorti un croquis représentant une bombe. Il avait lui-même tracé une ligne rouge au feutre sur ce dessin, une ligne que l'Iran, disait-il, s'apprête à franchir. Et finalement, on a appris il y a quelques jours que le le Mossad, donc le service des renseignements israélien, remet complètement en cause cette fameuse thèse de Benjamin Netanyahou.
Oui, alors ce sont des câbles échangés qui ont été rendus publics par Al Jazeera et The Guardian, donc des médias étrangers, des câbles entre le Mossad, les services secrets israéliens et les services secrets sud-africains, comme quoi effectivement... Alors, le point commun, c'était de dire effectivement les Iraniens enrichissent de l'uranium, c'est dangereux, mais c'est sur le délai. Netanyahou avait dit dans un an au plus tard, ils auront la bombe nucléaire. Or, le Mossad apparemment a remis en question cette thèse en disant, bien non, ils en étaient loin à l'époque. Alors, comment expliquer ce fossé? Vous savez, tout simplement, les dirigeants politiques ont leur propre agenda. Ils ne retransmettent pas forcément à la lettre les informations qu'ils ont du Mossad, des services de renseignement. Autrement dit, cela arrangeait peut-être Netanyahou de proclamer à la tribune de l'ONU qu'il ne restait plus qu'un an à l'Iran pour se doter de l'arme nucléaire. Cela frappe davantage les esprits que de rester un petit peu dans le flou, peu importe si les informations du Mossad étaient légèrement différentes. D'ailleurs, selon le journal de gauche Haaretz, plusieurs chefs du Mossad depuis 10 ans ne cessent de rappeler que l'Iran est une puissance rationnelle. Ils suggèrent que l'Iran ne va pas attaquer Israël comme ça, que ce n'est pas une menace existentielle, contrairement à ce que dit Netanyahou. Donc Netanyahou est assez critiqué. D'ailleurs, pour information, demain, il va y avoir un grand rassemblement à Tel Aviv contre Netanyahou, dans le cadre des élections bien sûr. Eh bien, plusieurs anciens chefs du Mossad vont y participer pour dire tout le mal qu'ils pensent de la politique de Netanyahou, pas seulement sur l'Iran mais sur d'autres sujets, comme quoi effectivement il peut y avoir un fossé assez grand entre les hommes politiques et les services de renseignement.
Le Mossad qui n'a donc pas la même analyse que le Premier ministre israélien. On peut se demander aussi d'où Benjamin Netanyahou tient ses informations pour tenir des tels propos sur l'Iran. Pascal, vous avez une dernière question ?
Oui, Juan Gomez, j'aimerais aussi savoir quelles conséquences ces fuites peuvent-elles avoir sur la suite des négociations du programme nucléaire iranien.
Concernant le fossé, le clivage entre le Mossad et le Premier ministre, d'autant, Muriel, que ces révélations, finalement, interviennent en pleine négociation sur le dossier du nucléaire iranien. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, selon vous ?
Oui, alors effectivement, les négociations sont censées s'achever à la fin du mois. Alors, a priori, j'aurais tendance à dire que ces informations ne devraient pas changer la donne. D'abord, elles datent de 2012 et même l'intervention de Netanyahou il y a quelques jours au Congrès américain ne devrait pas non plus changer la donne. C'est en tout cas ce que disent les Iraniens et ce que disent aussi les Américains. En outre, Israël a fait beaucoup de bruit. Netanyahou a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Mais Israël, rappelons-le, ne fait pas partie des négociateurs. Les négociateurs, ce sont l'Iran d'un côté, de l'autre les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Un accord est en cours de discussion, mais il est loin d'être acquis. Il y a beaucoup de différends encore. Et rappelons l'objectif, il faut réduire les capacités nucléaires de l'Iran pour que ce pays ne se dote pas de l'arme nucléaire. En échange de quoi, les sanctions contre l'Iran pourraient être levées.
Et en même temps, ainsi qu'une reconnaissance du droit à l'Iran d'avoir du nucléaire civil. Merci beaucoup Muriel Paradon d'avoir été en direct de Jérusalem. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant la libre antenne, peut-être dans moins de 20 minutes d'ailleurs. 33 9 693 693 70. Guillaume Thibault est avec nous en direct de Ouagadougou. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Envoyé spécial d'RFI au Burkina Faso, on salue au passage Denis Chastel qui est à vos côtés et qui assure cette liaison technique. On a des difficultés pour recontacter Kanazoé. Kanazoé est en ligne, enfin nous appelait de Yako, c'est à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Et il nous dit, voilà, après la chute de Blaise Compaoré, le nouveau gouvernement burkinavé avait promis de faire la lumière sur les assassinats de Thomas Sankara et de Norbert Zongo. Nous sommes, c'est vrai, à 100 jours du coup d'envoi de la transition au Burkina Faso et notre auditeur se demande qu'entend le président du Burkina Faso lorsqu'il promet de donner des moyens à la famille Sankara concernant l'expertise de la tombe de Thomas Sankara. Thomas Sankara, rappelons-le peut-être pour les plus jeunes de nos auditeurs, ancien président du Burkina, assassiné en 87 lors d'un coup d'état qui avait permis à l'époque à Blaise Compaoré de prendre la tête du pays. Et c'est vrai, Guillaume, que les circonstances de sa mort n'ont toujours pas été élucidées. En tout cas, plus que des moyens, les autorités de la transition ont signé ce mercredi en Conseil des ministres un décret, et c'est d'ailleurs le premier décret dans ce dossier sensible qu'est celui de Thomas Sankara.
Un petit détail, Juan, nous sommes à 120 jours précisément
120 jours.
De la transition. La transition a commencé exactement il y a 4 mois. Ce décret qui donne l'autorisation à la famille Sankara d'exhumer la dépouille qui est dans la tombe du cimetière de Dagnoa, ici à Ouagadougou, pour confirmer ou non que c'est bien le corps de Thomas Sankara qui a été enterré à cet endroit. C'est une demande depuis très longtemps de la famille, c'est une demande des Burkinabés. Soyons précis, je vous lis le compte-rendu du Conseil des ministres sur ce point. L'adoption de ce décret permet désormais aux ayants droit de feu Thomas Isidore Noël Sankara, président du Faso, d'ouvrir la tombe supposée contenir son corps et de faire procéder à toutes les expertises nécessaires à l'identification. Plusieurs problèmes se posent désormais. La famille Sankara se demande pourquoi c'est à elle de procéder à cette exhumation et notamment aux expertises, au fameux test ADN. Sur notre antenne, Blandine Sankara, la petite sœur de feu Thomas Sankara, qui représente ici la famille au Faso, a d'ailleurs été plus loin. Pour elle, la signature de ce décret est un échec, car ce que demande la famille ne veut qu'une chose, c'est que l'enquête judiciaire reprenne. Pour que la vérité sur la mort et les circonstances de l'assassinat de l'ancien président du Faso soient enfin connues. Qui a donné l'ordre? Qui a tiré? Qui a aidé? Des pays étrangers ont-ils apporté leur soutien? Voilà les interrogations des Sankara et des Burkinabés. Dans le cadre de cette enquête, l'exhumation du corps n'est justement qu'une étape d'après la famille. Cette étape doit être menée par un juge. Problème, aucun magistrat n'a été désigné pour le moment par les autorités de transition. La procédure dépend de la justice militaire. Sankara était militaire. Sur le papier, et d'après les avocats de la famille Sankara, c'est donc au ministre de la Défense, qui est aussi le Premier ministre ici, Monsieur Isaac Yacoubazida, de procéder à cette désignation. Il n'y a eu aucune action concrète à ce niveau. La famille Sankara se demande donc si l'armée ne fait pas d'une certaine façon pression sur les autorités de la transition pour empêcher, voire pour bloquer toute enquête.
Alors voilà donc pour le dossier Thomas Sankara. Autre dossier, celui de Norbert Zongo. Notre auditeur Yana Zoé nous dit, voilà, sur le dossier Norbert Zongo, le président ne s'est toujours pas prononcé. Alors effectivement, pour l'instant, le gouvernement n'a pris aucun engagement clair concernant l'assassinat de ce journaliste d'investigation, Norbert Zongo, tué, rappelons-le, il y a maintenant 16 ans. Et là aussi, comme pour Thomas Sankara, la famille de Norbert Zongo demande que justice soit faite. Rien n'a encore été décidé en Conseil des ministres, Guillaume ?
Non, justement, lors du même Conseil des ministres, le gouvernement a présenté ce qu'il a appelé un deuxième rapport sur ce que les autorités appellent, j'ouvre les guillemets, les grands dossiers de crimes de sang en instance. Sont cités le dossier Sankara que l'on vient d'évoquer, le dossier Salifou Nebié, juge opposé à la modification de l'article 37 l'année dernière, article 37 de la Constitution qui devait permettre notamment à Blaise Compaoré de poursuivre sa prise ici au pouvoir au Burkina. Ce juge a été retrouvé mort en mai 2014 à 100 mètres de son véhicule. À l'époque, le procureur avait évoqué un homicide volontaire, mais un rapport d'autopsie parlait ensuite de mort accidentelle. Il y a aussi le dossier François Compaoré, frère de l'ex-président, au sujet des découvertes macabres à son domicile après l'insurrection. Et également, donc, ce qui intéresse notre auditeur, le dossier Norbert Zongo, célèbre journaliste d'investigation, vous l'avez dit, qui a été tué en 98 avec les trois personnes qui étaient aussi avec lui dans sa voiture. Ouais. Pour tous ces dossiers, il n'est pas question de décret ou d'annonce concrète. Voilà ce qui est écrit dans le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil a instruit le ministre en charge des dossiers, le ministre de la Justice, à prendre les mesures idoines pour donner une suite diligente à ces grands dossiers en cours au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Rien de précis, concrètement. La transition n'évoque que cette suite diligente, à voir si dans ce dossier, le procureur qui est nommé va relancer l'enquête, va peut-être nommer un juge. Il faudra suivre de près les décisions si elle en prend de la garde des Sceaux, Joséphine Ouédraogo. Norbert Zongo a déclaré un jour, le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. Aujourd'hui, les Burkinabés attendent désormais de la transition qu'elle passe concrètement des paroles aux actes. Et le temps presse puisque cette transition est prévue pour finir Le 11 octobre, après l'élection présidentielle.
Effectivement. Merci Guillaume Thibault d'avoir été en direct avec nous de Ouagadougou. Merci à Denis Chastel pour la liaison technique. Et d'ailleurs, lundi, notre débat portera d'ailleurs sur le dossier Thomas Sankara. Faut-il se contenter d'une exhumation de la dépouille de l'ancien président ou une enquête sur les circonstances de sa mort vous semble indispensable, comme le pense sa famille? On en parlera lundi. Pour l'instant, restez avec nous, c'est l'heure du journal.